Voyons maintenant les besoins de sécurité. Donc, j'ai divisé cette catégorie de besoins en deux, besoins de sécurité physique et besoins de sécurité d'ordre psychologique. Donc, on va d'abord commencer par les besoins de sécurité physique. Alors, chaque organisation est soumise à des règles d'hygiène et de sécurité. Il y a les règles qui sont imposées par la loi. Et il y a les règles dont la structure s'est elle-même dotée par rapport aux spécificités de son métier et des risques. Et la vocation de ces règles de sécurité est de limiter les risques et donc de concourir à satisfaire les besoins de sécurité physique. Et je considère qu'elles sont à prendre en compte de façon très déterminée et rigoureuse. Et moi, je vois deux raisons à cela. La première raison, c'est que ces règles sont dictées par la loi, que ce soit la loi externe, la loi du pays ou de la profession, ou la loi interne à la structure. Et il est nécessaire que le leader respecte la loi. Ça me paraît même indispensable, et ceci pour. À mon avis, il y a trois avantages à ce que le leader respecte la loi. Le premier avantage, c'est une évidence, c'est moins dangereux. De mon point de vue, il est du devoir d'un leader de limiter les risques de toute nature qui peuvent menacer la structure qu'il dirige. Et à cet égard, les risques de sanctions légales sont parmi les plus importants. Il y a la sanction légale qui peut frapper la structure, et en parallèle de la sanction légale, il y a le discrédit, hein, qui peut résulter d'une condamnation en justice, par exemple. Bon, en plus, au-delà des risques pour la structure, certaines infractions à la loi, notamment concernant la sécurité, peuvent avoir des conséquences qui peuvent aller jusqu'à une mise en cause personnelle du dirigeant. Donc, un avantage à respecter la loi, c'est que c'est moins dangereux de respecter la loi. Un deuxième avantage, c'est que c'est une marque indéniable de considération pour ses collaborateurs. Or, on le verra plus loin, les collaborateurs ont parmi les besoins fondamentaux besoin de se sentir considérés. Et un collaborateur va juger son manager, son leader, non pas sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait. C'est intéressant d'avoir écrit sur la porte du bureau ou à l'accueil. La charte de l'entreprise qui commence invariablement par le fait que, après le client, la deuxième personne la plus importante, c'est le personnel. Le personnel juge des intentions et des valeurs du leader en fonction non pas de ce qu'il a écrit sur la charte, mais de sa pratique au quotidien. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que c'est plus efficace. En effet, le leader a une influence déterminante sur le comportement de ses collaborateurs. Il va les guider, et encore une fois, il les guide non pas parce qu'il dit, mais parce qu'il fait. Et ces derniers prennent ses actes comme modèle de ce qu'il faut faire dans la structure, de ce qui se fait. Donc le leader a eu un rôle essentiel dans définir jusqu'au bas de la hiérarchie quelles sont les règles du jeu qui s'appliquent. Et la question que je pose, moi, c'est quel crédit peut avoir un leader qui montre à ses collaborateurs que l'on peut jouer avec les règles et que les seules règles que l'on doit appliquer sont celles qui nous conviennent et que pour celles qui nous gênent, la stratégie à adopter est de les contourner discrètement tout en mettant l'intelligence nécessaire pour ne pas se faire prendre. De mon point de vue, le leader qui, par sa pratique, envoie indirectement ce message à ses collaborateurs, peut s'attendre à être confronté un jour ou l'autre à une attitude similaire de certains d'entre eux par rapport à des règles qu'il aura lui-même édictées. C'est le principe de l'exemple. Donc, le fait pour une structure, pour son leader et pour toutes les personnes qui composent cette structure, de s'investir de façon, comme je disais, déterminée et rigoureuse dans l'application des règles d'hygiène et de sécurité, c'est pour moi. Donc il y a deux raisons qui me conduisent à suggérer vivement cette démarche. Donc je vous ai dit la première, c'est que on est en cohérence avec la loi ou avec le règlement édicté par la structure. La deuxième, c'est que c'est pour qu'un collaborateur soit efficace et fiable dans la durée, il doit être en bonne santé physique. Je rejoins ce que je disais sur l'étape précédente au niveau des besoins d'ordre physiologique. Et un salarié qui est victime d'un accident, qui est malade ou qui est diminué, aura inévitablement des performances moindres ou plus aléatoires. Et ça représente donc un gaspillage pour la structure. C'est donc aussi au titre de la chasse aux facteurs de perte de performance que la règle d'hygiène et de sécurité doit être respectée. Et en conclusion, je dirais que, en tout cas concernant ce besoin-là de sécurité physique, je dirais que si le leader ne fait pas cette démarche, ne met pas cette énergie par respect de ses collaborateurs, s'il ne le fait pas par souci de tranquillité d'esprit ni par éthique, je le suggère de le faire au moins par intérêt.